le regard de notre Père des cieux, ce Père qui nous aime avec une tendresse infinie et qui aime ce soir à nous accueillir lui-même. Quand je me tenais devant Dieu cette semaine pour lui demander encore une fois quel était le message qui pourrait vous convenir, un chapitre de l'évangile de Luc s'est imposé à mon cœur, et ce soir je n'en ferai que l'introduction, mais j'aimerais que vous sachiez d'avance quels sont les sujets qui nous occuperont afin que vous puissiez déjà personnellement lire ce chapitre et vous en imprégner afin qu'au cours des rencontres que nous aurons, le message puisse pénétrer plus profondément au fond de vos cœurs et toucher aussi vos consciences. J'étais très frappé ce soir avant de quitter Montréal. Je suis allé vers le petit calendrier que nous possédons dans notre chambre à coucher et j'ai regardé le verset de la journée de samedi 11 février et j'ai reçu cette parole comme venant du Seigneur et comme un ordre personnel pour moi. Fais-leur connaître la voie dans laquelle ils doivent marcher et l'œuvre qu'ils ont à faire. Donc, c'est un ordre précis pour moi. J'ai une responsabilité, celle de vous faire connaître la voie dans laquelle vous devez marcher et l'œuvre que vous avez à faire. Vous direz, non, enfin, il a une Bible que nous ne connaissons pas. On nous a toujours parlé qu'on n'avait pas d'œuvre à faire, que nous étions sauvés par la grâce, que cela ne venait pas de nous et que ce n'est pas sur le principe des œuvres. Et puis vous commencez par nous dire qu'il y aura une œuvre à faire. Bien oui, mes amis, quand on est réellement sauvé par le moyen de la foi, lorsqu'elle est vivante, elle nous conduit à des œuvres. Mais ce ne sont plus les œuvres de la loi, des œuvres qu'on s'efforce de faire pour gagner notre salut, ce sont les œuvres de la foi que l'on accomplit dans l'énergie du Saint-Esprit parce que le Seigneur nous a sauvés et que notre cœur débordant de reconnaissance, nous désirons lui offrir toute notre vie afin que lui, avec notre vie, puisse faire ce qu'il désire. Car au fond, c'est cela, être à la disposition du Seigneur. Et servir le Seigneur, comme je le dis si souvent, c'est être disponible comme le fut Marie, la mère bénie de Jésus, qui après la visitation de l'ange, a pu répondre simplement, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Au fond, servir le Seigneur, c'est pas essayer de faire quelque chose pour lui, c'est se laisser faire par lui. C'est accepter d'être dans sa main pour qu'il puisse accomplir ses desseins dans ce monde avec nos propres vies. Eh bien, je demande au Seigneur qu'il me donne d'être fidèle au milieu de vous dans ces journées. Et le thème que j'avais plus ou moins annoncé à notre cher Michel quand il m'a parlé de cette fin de semaine, je l'avais vu comme pouvant être indiqué par ces quelques mots à l'écoute de, pas Gaston Racine, pas intéressant, à l'écoute de Jésus. Être à l'écoute de Jésus, c'est le profond désir qui remplit mon cœur ce soir et qui, j'en suis sûr, remplira aussi vos cœurs dans les moments que nous passerons ensemble, parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une rencontre personnelle avec Jésus. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, où nous entendons tant de choses, c'est d'entendre la voix de Jésus, de nous approcher de lui pour l'écouter, et l'ayant écouté, obéir à sa parole, le prendre réellement au sérieux et mettre notre volonté à sa disposition afin que ce soit de toute notre âme, de tout notre cœur et de toute notre force que nous servions Jésus, que nous appelons notre Sauveur, mais qui doit réellement devenir pour chacun de nous le Seigneur de notre vie, celui qui nous dirige, celui qui nous conduit, celui auquel on se soumet sans discussion, parce que de toute façon, on apprend en l'aimant que ses commandements ne sont pas pénibles et qu'il nous a dit la vérité lorsqu'il nous invitait à venir à lui alors que nos âmes étaient travaillées, chargées, et qu'il nous disait « Venez à moi, je vous donnerai du repos ». Oui, on a éprouvé que c'était vrai, que quand on va à Jésus, il nous donne ce repos que nous n'avons pas trouvé dans le monde. Et non seulement il nous donne le repos, mais il nous dit que si nous apprenons toutes choses de lui, si nous recevons ses instructions, alors nous-mêmes aussi, dans nos circonstances les plus difficiles, nous trouvons le repos de nos âmes. Il nous donne le repos de notre conscience, et puis, si nous le suivons, il nous fait trouver le repos de nos âmes, et nous expérimentons que son joug et que son fardeau est léger. Voilà la vraie traduction. Mes amis, ce soir, je vous parlerai simplement des deux premiers versets de ce chapitre 15e. Je pense que vous êtes fatigués, que vous êtes tous désireux d'aller vous coucher le plus tôt possible. Et du reste, il ne reste pas beaucoup de temps pour tenir l'horaire. Si vous devez éteindre les feux à 11h et que vous avez la collation entre temps. Donc, je vais essayer d'être bref en étant persuadé que le Saint-Esprit pourra lui-même, dans vos chambres, prolonger cette méditation. Nous lisons donc au chapitre 15 de l'Évangile de Luc. C'était ce temps où Jésus était sur la terre. Est-ce que vous le croyez qu'il a été sur la terre? C'était un temps extraordinaire, hein. Puis on peut aller dans ce pays où il a marché et on peut même mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas. Il y a des lieux où l'on sait que réellement Jésus a passé et l'on peut être sûr de mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas. Mais ce n'est pas en Israël et qu'il nous faut simplement marcher dans l'empreinte des pas de Jésus. C'est au Canada, c'est au Québec, c'est dans nos villes, c'est dans nos villages, c'est dans nos rues, que ce soit à Montréal ou que ce soit ailleurs. C'est là que nous devons apprendre à marcher dans les traces de Jésus, parce que on connaît Jésus, parce que on l'aime. Lui qui nous a aimés le premier. Ce que je demande à Dieu de tout mon cœur, c'est que l'amour de Dieu vous soit vraiment révélé à vous tous, qui que vous soyez, quelle que soit votre disposition d'esprit, quelles que soient vos circonstances personnelles, vos circonstances familiales ou sociales, ou que vous puissiez croire que vous êtes aimés de Dieu. Tellement aimé, aimé par le Seigneur Jésus lui-même, aimé d'un amour qui le conduit à donner sa propre vie pour réellement vous sauver. Pas simplement vous sauver pour qu'un jour vous alliez auprès de lui, parce que vous savez que toujours il nous faut mourir. Hein? Aujourd'hui, de quelle mort est-ce qu'on parle surtout dans le monde entier? On parle de la mort d'un certain monsieur, Andropov. Hein? Mais il est mort. Il a fait trembler le monde. Et puis maintenant, il est mort. Lui aussi, il est mort. Il est mort. Et nous aussi, un jour, nous devons mourir si le Seigneur n'est pas venu avant. Nous sommes tous frappés, tôt ou tard, par la mort. Et tous, un jour, nous devons comparaître devant Dieu. Moi, je n'ai pas à juger M. Andropov, mais j'étais très ému en pensant ce matin, quand j'ai entendu cette nouvelle, que cet homme, qui était le chef du KGB, et qui a pris des décisions terribles au sujet de la vie ou de la mort d'une multitude d'hommes, tout à coup, il se trouve en face de Dieu. Car tôt ou tard, quel que soit le chemin que nous prenions, que nous soyons athées ou que nous soyons croyants, c'est Dieu que nous rencontrons. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Mais un Dieu qui est Père, si on l'a connu comme Père, ou un Dieu qui est juge, si l'on a rejeté sa grâce qu'il nous offrait en Jésus-Christ. Oui, vous pouvez prendre le chemin que vous voulez dans ce monde. Au bout de tous les chemins, il y a Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il n'y a pas un chemin au bout duquel vous trouverez le diable, c'est pas vrai. Il y a, oui, au bout de tous les chemins, que ce soit celui de droite ou que ce soit celui de gauche, c'est toujours Dieu que nous rencontrons. Et alors vous me direz, mais le diable, mais le diable il est ici, il est maintenant. Et il vous dit de ne pas vous décider pour Dieu. Il vous dit de ne pas vous décider pour Dieu. Il vous dit de rester dans votre situation, dans l'état où vous êtes. De ne pas écouter la voix de celui qui s'est présenté dans ce monde comme le bon berger qui venait pour chercher et sauver ses brebis perdues. Ça sera notre sujet de demain matin, là. Jésus, venu sur la terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Demain soir, nous vous parlerons encore de cet amour de Dieu cherchant une âme en vous présentant une seconde parabole de Jésus qui nous présente une femme. Il avait perdu une pièce de monnaie, elle avait 10 pièces d'argent, puis elle en a perdu une. Elle a fait des efforts pour retrouver cette seule pièce qu'elle avait perdue. On aurait pu dire, mais elle en a encore 9. Mais cette pièce de monnaie qu'elle avait perdue lui tenait à cœur, avait une valeur pour elle. Et elle l'a cherchée jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ce sera notre sujet de demain soir. Vous me direz, mais alors, vous n'avez plus besoin d'en parler, on les sait ces histoires. Peut-être. Mais peut-être que le Seigneur va vous apprendre quelque chose avec ces histoires, au sujet de ce que c'est qu'être perdu et au sujet de ce que c'est qu'être sauvé. Et alors, on arrivera dimanche matin à la troisième parabole qui nous présente un fils perdu et qui est retrouvé. Et dans cette troisième parabole qui est appelée communément la parabole de l'enfant prodigue, on verra ce qui se passe avant une conversion et ce que produit une réelle conversion. Et le changement qui est introduit dans une âme. Et en considérant ces trois paraboles, nous allons voir l'œuvre du Fils dans le salut d'une âme, l'œuvre du Saint-Esprit pour trouver une âme perdue et en faire un instrument de valeur dans ce monde et enfin l'amour du Père et qui accueille les âmes. Alors, ce soir, je voudrais simplement attirer votre attention sur ce fait que quand Jésus était sur la terre, eh bien, il y avait des personnes qui désiraient le voir. On a convoqué, vous avez convoqué, une fin de semaine à Parkside, et je vois que plusieurs ont répondu à cette invitation. Donc, vous êtes venus ici, mais pour qui, pourquoi? Pour retrouver des amis, peut-être? Oui, dans un sens. Mais surtout, pour rencontrer, d'une façon vivante, et peut-être comme vous ne l'avez jamais connu, Jésus. Il est dit dans le chapitre 14, au verset 25e de ce même évangile de Luc, que des grandes foules faisaient route avec Jésus. Et vous savez, Jésus ne se laissait pas éblouir par le nombre. Et quand il voyait ces grandes foules le suivre, il les avertissait tout de suite que si on voulait réellement devenir son disciple, il fallait que lui occupe la première place avant son père, avant sa mère, avant sa femme, avant ses enfants. Et il ne trompait pas les gens, il ne disait pas « ça sera facile si vous voulez vraiment me suivre », mais il leur disait « si vous voulez me suivre, si vous voulez réellement être mes disciples, pas seulement des gens qui disent « on connaît Jésus » ou « on est des sauvés », ça ne trompe personne de dire qu'on est des sauvés. Le monde vous regarde puis il dit « ils ne sont pas si sauvés que ça ». Quand on les voit, quand on les voit marcher, est-ce qu'on voit vraiment la marche des sauvés? Vous savez, quand on veut suivre Jésus, il y a une manifestation qui doit se produire. Alors Jésus mettait bien en garde cette foule qui le suivait ou qui voulait l'entourer, l'acclamer, chanter et même couper des rameaux. Il savait très bien que ça arriverait. On couperait même des rameaux, des branchages, de palmiers. Et puis on dirait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », on l'acclamerait comme roi. Mais il savait que cela ne durerait pas longtemps, et que ce même peuple pourrait crier quelques jours après « Hôte, hôte, crucifie-le, crucifie-le ». Le Seigneur ne s'est jamais laissé prendre par cette popularité que donne souvent les foules à certains personnages. Et il disait aussi, au sujet de ceux qui voulaient le suivre, qu'il fallait qu'ils réfléchissent. Avant de dire « je veux te suivre », il faut qu'ils s'asseyent et puis qu'ils fassent un petit calcul pour voir s'ils iront jusqu'au bout. Pas aller un bout de chemin et puis s'arrêter. Et puis il leur disait encore que celui qui voulait le suivre, quiconque d'entre vous voudra me suivre, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à tout ce qu'il possède pour devenir mon disciple. Devenir mon disciple. Alors il y avait autour de Jésus des disciples. Et je vous laisse ces deux versets maintenant. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Malgré qu'il avertissait bien que ce ne serait pas facile de le suivre, eh bien, les gens qui aimaient l'entourer, c'était des publicains, des gens de mauvaise vie, et ils osaient s'approcher de Jésus. Et pourquoi ? Pour l'entendre. Moi, je ne vous connais pas. Et je ne vais pas vous dire que parmi vous, il y a des publicains, et parmi vous, qu'il y a des gens de mauvaise vie. Vous auriez vite fait de me sortir, et de dire, mais enfin, comment pouvez-vous dire cela de nous? Nous sommes de braves gens. Et oui, les frères de Joseph, c'est ce qu'ils disaient. Nous sommes tous de braves gens. Ils disaient ça à la face de Joseph. qu'il n'avait pas reconnu. Et Joseph devait entendre ses propres frères dire, mais nous ne sommes pas des espions, nous sommes de braves gens. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces braves gens? Ils avaient vendu leur frère. Ils avaient voulu le tuer. Ils n'avaient pas du tout conscience d'être des assassins, des voleurs d'hommes et des menteurs. Et il y avait 20 ans qu'ils étaient dans cet état-là. Mais nous sommes tous de braves gens. Oui. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour nous convaincre de péché, pour nous faire voir vraiment dans quel état nous nous trouvons devant Dieu. Monsieur Andropov, pour beaucoup de Russes, c'était un brave homme. Maintenant, il est devant Dieu. C'est pas à moi à le juger. Oh, plus à Dieu que dans ces derniers moments, il ait eu un regard sur la croix du calvaire, et que l'âme d'Andropov se soit tournée vers Jésus. Alors je me réjouisserai de savoir qu'un chef de la Russie a trouvé le salut dans ses derniers moments, un chef du KGB sauvé. Alors vous me direz, ben alors si c'est vrai, moi, ça ne m'intéresse plus d'aller au ciel. Si c'est pour trouver Andropov, le chef du KGB, sauvé parmi les élus, ben non. Alors, il se pourrait que vous apparteniez à une autre classe de personnes. Vous n'êtes pas un publicain. C'est-à-dire, un publicain, c'était un de ces juifs qui avaient accepté de la part des Romains, de l'occupant, ils avaient acheté une charte et ils étaient devenus percepteurs d'impôts. C'est eux qui récoltaient les taxes, les péages, et ils étaient très mal vus dans leur pays. D'abord, c'était des Juifs qui s'étaient mis au service de qui ? L'occupant, hein. Alors, on trouvait qu'ils étaient des traîtres. Mais enfin, ces gens, ils étaient du peuple, et puis il fallait bien vivre, il fallait bien manger, il fallait gagner leur vie. Et ils avaient une occupation, évidemment, qui pouvait les pousser à la malhonnêteté. Ils pouvaient demander des taxes plus élevées qu'ils n'auraient dû et en garder une partie. C'est la réputation qu'on faisait aux publicains, aux péagers. C'est le même terme, hein, ceux qui étaient là pour prendre les taxes, les péages. Et puis, on reprochait à Jésus d'avoir un commerce avec eux. Il acceptait que ces péagers viennent lui poser des questions. Et ces péagers étaient même intéressés, ces publicains, à entendre les paroles de Jésus. Et puis, avec ces péagers, il y avait les gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que c'est que les gens de mauvaise vie? Bien, c'est ce qu'on appelle couramment, aussi dans d'autres traductions, les pécheurs. Les pécheurs. Vous me direz, ben nous sommes... Bon, vous n'êtes pas des pécheurs. Pas avec un circonflexe. Peut-être que vous l'êtes avec un circonflexe. Vous aimez la pêche, hein? Oui. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous êtes des pêcheurs. Non, nous ne sommes pas des pêcheurs. Nous ne sommes pas des gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que c'est qu'un pêcheur? Mais c'est un homme qui pêche. C'est un homme qui connaît des... On veut nous parler pas de pêcher au Québec, on me l'a dit 36 fois. On nous a tellement culpabilisés. N'employez plus ce mot péché. On est trop culpabilisés. Depuis notre enfance, on nous a toujours fait peur avec le péché. Ne parlez plus de péché. Hein, non. Mais le péché existe quand même. Et son salaire est toujours le même. Le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est la transgression de la loi divine. Dieu a parlé. Il a donné une loi aux hommes. Et hélas, les hommes transgressent cette loi. Et alors, transgressant cette loi, donc ils pêchent. Le péché, c'est la transgression de la loi, nous dit l'Écriture. Et puis, nous en subissons alors les conséquences. Gens de mauvaise vie. Il y avait les prostituées, oui. Et c'est ce qu'on reprochait à Jésus. On lui disait qu'il était l'ami des publicains, donc de ces péagers, de ces gens qui occupaient une mauvaise situation, qui avaient un mauvais métier, et puis qu'il fréquentait aussi des femmes qui n'avaient pas une bonne réputation, des filles de joie, oui. Voilà ce qu'on disait de Jésus. Et qu'est-ce qu'il disait cela de Jésus? Bien, c'était les pharisiens. Une autre classe de personnes. Alors j'ai dit simplement que si vous ne vous réjouiriez pas de savoir que Khrouchtchev ou que Andropov soit sauvé, si vous ne pourriez pas vous réjouir de cela, vous seriez du clan de ces pharisiens. Les pharisiens, c'était des gens très religieux et qui suivaient alors la lettre de la loi et qui se pensaient juste eux et qui ne voulaient rien avoir à faire avec ces gens qu'on disait les pécheurs, les pharisiens et les scribes. Les scribes, c'était ceux qui enseignaient la loi de Moïse. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient? Bien, ils disaient, en voyant cette foule qui entourait Jésus, cet homme, ou celui-là, voilà ce qu'ils disaient simplement de Jésus, celui-là, il méprisait Jésus, cet homme, celui-là, il accueille les gens de mauvaise vie, et il mange même avec eux. C'est vrai, il avait mangé avec les publicains à plusieurs reprises. Il avait passé un jour devant un poste de péage, puis il avait vu un homme qui s'appelait Lévi, et qui était justement un de ces péagers qui percevait les impôts. Et au lieu de lui faire toute une morale et de lui dire, tu sais, tu n'as pas un beau métier, hein, c'est pas ta place d'être là, il lui a simplement dit, suis-moi. Et se levant, il l'a suivi. Et alors, il était tellement heureux de suivre Jésus, il a quitté son travail, il a quitté son poste, il a suivi Jésus, et il a voulu marquer cet événement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité tous ses collègues, puis il a fait un magnifique repas, un festin, pour mettre ses collègues en contact avec ce Jésus qu'il avait appelé et qu'il avait sorti de sa situation. Alors Jésus s'était mis à table avec Lévi et les publicains, et puis les gens qui fréquentaient les publicains, les gens de mauvaise vie. Alors on lui avait déjà reproché ça. Tu manges avec eux, tu vas chez ces gens-là. Comme on le dit encore aujourd'hui, mais comment est-ce que vous pouvez aller chez ces gens-là, même au Québec? Chez ces gens-là, mais on nous dit que vous allez là. Bien oui, on va là, parce que Jésus y allait aussi. Puis même vous mangez avec eux. Bien oui, et pourquoi pas? C'est des fois à table qu'on a le meilleur contact. Il y a eu une multitude de conversions au temps de Jésus, simplement parce qu'à table, il parlait de qui? De quoi? Il parlait de l'amour du Père, il parlait du Père Céleste, et il parlait d'une autre table, de cette table où nous sommes conviés, où il voudrait vous voir tous un jour. Vous voir tous un jour. Alors c'est cette accusation, j'abrège, je termine, c'est cette accusation qui a permis à Jésus de répondre à ces gens. En parlant à leur conscience et à leur cœur. Et c'est ce que nous verrons demain, Dieu voulant, comment Jésus a répondu à cette accusation. De quoi l'accusation? D'accueillir les pécheurs, d'accueillir les gens de mauvaise vie. Ces gens qui étaient déjà allés au baptême de Jean, puis qui avaient dit à Jean, mais que ferons-nous, que devons-nous faire? Et Jean avait parlé à des publicains, à des péagers. Vous pouvez lire cela dans le chapitre 3 de l'évangile de Matthieu, ou de Luc en particulier, l'évangile de Luc, oui, où il leur dit, n'exigez pas plus que vous ne devez quant aux impôts. Et il avait parlé donc à ces péagers, et ces péagers, ils sentaient très bien qu'ils étaient des pécheurs, que leur vie n'était pas en ordre. Alors Jean leur avait déjà indiqué ce qu'ils avaient à faire. Mes amis, je vous le demande maintenant ce soir, vous allez réfléchir et vous demander dans quelle classe vous vous trouvez, pour que ça vous prépare pour demain. Est-ce que vous êtes dans la classe de gens qui savent qu'ils sont pécheurs? Et peut-être même perdus. Qui voudraient qu'il y ait un changement dans leur vie. Qui voudraient que ça ne se passe plus comme ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Votre existence. Si vous êtes venu dans ce désir-là, vous recevrez une bénédiction. Ou bien est-ce que vous êtes de ces gens qui vous croyez juste, de ces pharisiens, de ces gens qui disent « Mais nous, nous connaissons la Bible, nous connaissons la parole, et puis nous bénissons Dieu de ne pas être comme les autres, comme ces païens, comme on dit tant si souvent au Québec. » Nous ne sommes pas comme les païens. Demandez au Seigneur de vous montrer ce soir dans quelle classe vous vous trouvez. Nous voulons prier. Ô Dieu, nous sommes émus. Et quand nous pensons à ces foules qui venaient pour t'écouter, qui venaient pour t'entendre, avec des dispositions si différentes, des hommes qui se savaient mauvais, des femmes qui se savaient pécheresses, mais qui auraient voulu qu'un changement intervienne dans leur vie. Ces gens osaient s'approcher de toi. Mais tu nous as montré aussi d'autres personnes qui se pensaient justes et qui jugeaient Jésus de faire accueil à ces personnes, à ces gens de mauvaise vie, qui identifiaient même Jésus à ces pécheurs alors qu'il était le saint. Qu'il était le juste. Que ton esprit parle à nos cœurs et que tu les disposes pour qu'en cette sainte semaine, nous puissions nous ouvrir tellement à ta grâce que nous sachions véritablement et définitivement ce que c'est qu'être sauvé, ce que c'est de connaître ton grand salut, ton si grand salut, et de pouvoir enfin être utilisé par toi et connaître le pardon du Père et les douceurs de sa maison dans un vrai service qui t'honore et qui te glorifie. Nous te remettons ces rencontres dans l'assurance que déjà tu les bénis. Pour la seule gloire de Jésus. Amen.